Vous le voyez, monsieur, reprit le médecin, sans répondre à ce mot de Genesta. Parler de la fausseuse, c'est parler de moi. La fausseuse est une plante dépaysée, mais une plante humaine, incessamment dévorée par des pensées tristes ou profondes, qui se multiplient les unes par les autres. Cette pauvre fille est toujours souffrante. Chez elle, l'âme tue le corps. Pouvais-je voir, avec froideur, une faible créature en proie au malheur le plus grand et le moins apprécié qu'il y ait dans notre monde égoïste, quand moi, homme, et fort contre les souffrances, je suis tenté de me refuser tous les soirs à porter le fardeau d'un semblable malheur. Peut-être m'y refuserais-je même, sans une pensée religieuse, qui émousse mes chagrins et répand dans mon cœur de douces illusions. Nous ne serions pas tous les enfants d'un même Dieu, la fausseuse serait encore ma sœur en souffrance. Benassi pressa les flancs de son cheval et entraîna le commandant Genesta comme s'il eût craint de continuer sur ce ton la conversation commencée. « Monsieur, reprit-il lorsque les chevaux trottèrent de compagnie, la nature a, pour ainsi dire, créé cette pauvre fille pour la douleur, comme elle a créé d'autres femmes pour le plaisir. En voyant de telles prédestinations, il est impossible de ne pas croire à une autre vie. Tout agit sur la fausseuse. Si le temps est gris et sombre, elle est triste et pleure avec le ciel. Cette expression lui appartient. Elle chante avec les oiseaux, se calme et se rassérène avec les cieux. Enfin, elle devient belle dans un beau jour. Un parfum délicat est pour elle un plaisir presque inépuisable. Je l'ai vue jouissant pendant toute une journée de l'odeur exhalée par des résédas après une de ces matinées pluvieuses qui développent l'âme des fleurs et donnent au jour je ne sais quoi de frais et de brillant. Elle s'était épanouie avec la nature, avec toutes les plantes. Si l'atmosphère est lourde, électrisante, la fausseuse a des vapeurs que rien ne peut calmer. Elle se couche et se plaint de mille maux différents sans savoir ce qu'elle a. Si je la questionne, elle me répond que ses os s'amollissent, que sa chair se fond en eau. Pendant ces heures inanimées, elle ne sent la vie que par la souffrance. Son cœur est en dehors d'elle, pour vous dire encore un de ces mots. Quelquefois, j'ai surpris la pauvre fille pleurant à l'aspect de certains tableaux qui se dessinent dans nos montagnes au coucher du soleil, quand de nombreux et magnifiques nuages se rassemblent au-dessus de nos cimes d'or. « Pourquoi pleurez-vous, ma petite ?» lui disais-je. « Je ne sais pas, monsieur, » me répondait-elle. « Je suis là comme une hébétée à regarder là-haut, et j'ignore où je suis à force de voir. » « Mais que voyez-vous donc ?»« Monsieur, je ne puis vous le dire. » Vous auriez beau la questionner alors pendant toute la soirée, vous n'en obtiendriez pas une seule parole, mais elle vous lancerait des regards pleins de pensées, ou resterait les yeux humides, à demi silencieuse, visiblement recueillie. Son recueillement est si profond qu'il se communique, du moins elle agit alors sur moi comme un nuage trop chargé d'électricité. Un jour, je l'ai pressée de questions. Je voulais à toute force la faire causer, et je lui dis quelques mots un peu trop vifs. « Eh bien, monsieur, elle s'est mise à fondre en larmes. » En d'autres moments, la fausseuse est gaie, avenante, rieuse, agissante, spirituelle. Elle cause avec plaisir, exprime des idées neuves, originales. Incapable d'ailleurs de se livrer à aucune espèce de travail suivi, quand elle allait au champ, elle demeurait pendant des heures entières occupée à regarder une fleur, à voir couler l'eau, à examiner les pittoresques merveilles qui se trouvent sous les ruisseaux clairs et tranquilles, ces jolies mosaïques composées de cailloux, de terre, de sable, de plantes aquatiques, de mousse, de sédiments bruns, dont les couleurs sont si douces, dont les tons offrent de si curieux contrastes. Lorsque je suis venu dans ce pays, la pauvre fille mourait de faim. humiliée d'accepter le pain d'autrui. Elle n'avait recours à la charité publique qu'au moment où elle y était contrainte par une extrême souffrance. Souvent, la honte lui donnait de l'énergie. Pendant quelques jours, elle travaillait à la terre, mais bientôt épuisée, une maladie la forçait d'abandonner son ouvrage commencé. À peine rétablie, elle entrait dans quelques fermes, aux environs, en demandant à y prendre soin des bestiaux. Mais après s'y être acquittée de ses fonctions avec intelligence, elle en sortait sans dire pourquoi. Son labeur journalier était sans doute un joug trop pesant pour elle, qui est toute indépendance et tout caprice. Elle se mettait alors à chercher des truffes ou des champignons, et les allait vendre à Grenoble. En ville, tentée par des babioles, elle oubliait sa misère en se trouvant riche de quelques menues pièces de monnaie et s'achetait des rubans, des colifichets, sans penser à son pain du lendemain. Puis, si quelque fille du bourg désirait sa croix de cuivre, son cœur à la Jeannette ou son cordon de velours, elle les lui donnait, heureuse de lui faire plaisir, car elle vit par le cœur. Aussi la fausseuse était-elle tour à tour aimée, plainte, méprisée. La pauvre fille souffrait de tout, de sa paresse, de sa bonté, de sa coquetterie. Car elle est coquette, friande, curieuse. Enfin, elle est femme. Elle se laisse aller à ses impressions et à ses goûts, avec une naïveté d'enfant. Racontez-lui quelque belle action. Elle tressaille et rougit. Son sein palpite. Elle pleure de joie. Si vous lui dites une histoire de voleur, elle pâlira d'effroi. C'est la nature la plus vraie, le cœur le plus franc et la probité la plus délicate qui se puisse rencontrer. Si vous lui confiez 100 pièces d'or, elle vous les enterrera dans un coin et continuera de mendier son pain. » La voix de Benassi s'altéra quand il dit ces paroles. « J'ai voulu l'éprouver, monsieur, reprit-il, et je m'en suis repenti. Une épreuve, n'est-ce pas de l'espionnage, de la défiance tout au moins ?» Ici le médecin s'arrêta, comme s'il faisait une réflexion secrète, et ne remarqua point l'embarras dans lequel ces paroles avaient mis son compagnon, qui, pour ne pas laisser voir sa confusion, s'occupait à démêler les rênes de son cheval. Benassi reprit bientôt la parole. « Je voudrais marier ma fausseuse. Je donnerais volontiers une de mes fermes à quelque brave garçon qui la rendrait heureuse. Et elle le serait. Oui, la pauvre fille aimerait ses enfants à en perdre la tête, et tous les sentiments qui surabondent chez elle s'épancheraient dans celui qui les comprend tous pour la femme, dans la maternité. Mais aucun homme n'a su lui plaire. Elle est cependant d'une sensibilité dangereuse pour elle. Elle le sait, et m'a fait l'aveu de sa prédisposition nerveuse quand elle a vu que je m'en apercevais. Elle est du petit nombre de femmes sur lesquelles le moindre contact produit un frémissement dangereux. Aussi faut-il lui savoir gré de sa sagesse, de sa fierté de femme. Elle est fauve comme une hirondelle. Ah, quelle riche nature, monsieur! Elle était faite pour être une femme opulente, aimée. Elle eût été bienfaisante et constante. À 22 ans, elle s'affaisse déjà sous le poids de son âme, et dépérit, victime de ses fibres trop vibrantes, de son organisation trop forte ou trop délicate. Une vive passion, trahie, la rendrait folle, ma pauvre fausseuse. Après avoir étudié son tempérament, après avoir reconnu la réalité de ses longues attaques de nerfs et de ses aspirations électriques, après l'avoir trouvée en harmonie flagrante avec les vicissitudes de l'atmosphère, avec les variations de la lune, fait que j'ai soigneusement vérifié, j'en pris soin, monsieur, comme d'une créature en dehors des autres, et de qui la maladive existence ne pouvait être comprise que par moi. C'est, comme je vous l'ai dit, la brebise au ruban. Mais vous allez la voir. Voici sa maisonnette. » En ce moment, ils étaient arrivés au tiers environ de la montagne par des rampes bordées de buissons, qu'il gravissait au pas. En atteignant au tournant d'une de ces rampes, Genesta aperçut la maison de la fosseuse. Cette habitation était située sur une des principales bosses de la montagne. Là, une jolie pelouse en pente d'environ 3 arpents, plantée d'arbres et d'où jaillissaient plusieurs cascades, était entourée d'un petit mur assez haut pour servir de clôture, pas assez pour dérober la vue du pays. La maison bâtie en briques et couverte d'un toit plat qui débordait de quelques pieds, faisait dans le paysage un effet charmant à voir. Elle était composée d'un rez-de-chaussée et d'un premier étage à portes et contrevents peints en verre. Exposée au midi, elle n'avait ni assez de largeur ni assez de profondeur pour avoir d'autres ouvertures que celles de la façade, dont l'élégance rustique consistait en une excessive propreté. Suivant la mode allemande, la saillie des auvents était doublée de planches peintes en blanc. Quelques acacias en fleurs et d'autres arbres odoriférants, des épines roses, des plantes grimpantes, un gros noyer que l'on avait respecté, puis quelques saules pleureurs plantés dans les ruisseaux s'élevaient autour de cette maison. Derrière se trouvait un gros massif de hêtres et de sapins, large fond noir sur lequel cette jolie bâtisse se détachait vivement. En ce moment du jour, l'air était embaumé par les différentes senteurs de la montagne et du jardin de la fosseuse. Le ciel, pur et tranquille, était nuageux à l'horizon. Dans le lointain, les cimes commençaient à prendre les teintes de rose vif que leur donne souvent le coucher du soleil. À cette hauteur, la vallée se voyait tout entière, depuis Grenoble jusqu'à l'enceinte circulaire des rochers, au bas desquels est le petit lac que Genesta avait traversé la veille. Au-dessus de la maison, et à une assez grande distance, apparaissait la ligne de peupliers qui indiquait le grand chemin du bourg à Grenoble. Enfin, le bourg, obliquement traversé par les lueurs du soleil, étincelait comme un diamant en réfléchissant par toutes ces vitres de rouge lumière qui semblaient ruisseler. À cet aspect, Genesta arrêta son cheval, montra les fabriques de la vallée, le nouveau bourg et la maison de la fosseuse. Après la victoire de Wagram et le retour de Napoléon aux Tuileries en 1815, dit-il en soupirant, voilà ce qui m'a donné le plus d'émotion. Je vous dois ce plaisir, monsieur, car vous m'avez appris à connaître les beautés qu'un homme peut trouver à la vue d'un pays. Oui, dit le médecin en souriant, il vaut mieux bâtir des villes que de les prendre. Oh, monsieur, la prise de Moscou et la reddition de Mantoue. Mais vous ne savez donc pas ce que c'est ? N'est-ce pas notre gloire à tous ? Vous êtes un brave homme, mais Napoléon aussi était un bon homme. Sans l'Angleterre, vous vous seriez entendus tous deux, et il ne serait pas tombé, notre empereur. Je peux bien avouer que je l'aime maintenant. Il est mort. Et, dit l'officier en regardant autour de lui, il n'y a pas d'espion ici. Quel souverain! Il devinait tout le monde. Il vous aurait placé dans son conseil d'État, parce qu'il était administrateur, et grand administrateur, jusqu'à savoir ce qu'il y avait de cartouches dans les gibernes après une affaire. Pauvre homme! Pendant que vous me parliez de votre fosseuse, je pensais qu'il était mort à Sainte-Hélène, lui. Hein? Était-ce le climat et l'habitation qui pouvaient satisfaire un homme habitué à vivre les pieds dans les étriers et le derrière sur un trône? On dit qu'il y jardinait. Diantre! Il n'était pas fait pour planter des choux. Maintenant, il nous faut servir les Bourbons, et loyalement, monsieur, car après tout, la France est la France, comme vous le disiez hier. En prononçant ces derniers mots, Genesta descendit de cheval et imita machinalement Benassi qui attachait le sien par la bride à un arbre. Est-ce qu'elle n'y serait pas ? Dit le médecin en ne voyant point la fosseuse sur le seuil de la porte. Ils entrèrent et ne trouvèrent personne dans la salle du rez-de-chaussée. Elle aura entendu le pas de deux chevaux, dit Benassi en souriant, et sera montée pour mettre un bonnet, une ceinture, quelques chiffons. Il laissa Genesta seule et monta pour aller chercher la fosseuse. Le commandant examina la salle. Le mur était tendu d'un papier à fond gris parsemé de roses et le plancher couvert d'une natte de paille en guise de tapis. Les chaises, le fauteuil et la table étaient en bois, encore revêtus de son écorce. Des espèces de jardinières, faites avec des cerceaux et de losier, garnies de fleurs et de mousses, ornaient cette chambre, aux fenêtres de laquelle étaient drapés des rideaux de percale blanc à franges rouges. Sur la cheminée, une glace, un vase en porcelaine uni entre deux lampes, près du fauteuil, un tabouret de sapin, puis sur la table, de la toile taillée, quelques goussets appareillés, des chemises commencées, enfin, tout l'attirail d'une lingère, son panier, ses ciseaux, du fil et des aiguilles. Tout cela était propre et frais, comme une coquille jetée par la mer en un coin de grève. De l'autre côté du corridor, au bout duquel était un escalier, Genesta aperçut une cuisine. Le premier étage, comme le rez-de-chaussée, ne devait être composé que de deux pièces. N'ayez donc pas peur, disait Benassi à la fosseuse. « Allons, venez !» En entendant ces paroles, Genesta rentra promptement dans la salle. Une jeune fille mince et bien faite, vêtue d'une robe à guimpe de percaline rose à mille raies, se montra bientôt, rouge de pudeur et de timidité. Sa figure n'était remarquable que par un certain aplatissement dans les traits, qui la faisait ressembler à ces figures cosaques et russes que les désastres de 1814 ont rendu si malheureusement populaires en France. La fosseuse avait en effet, comme les gens du Nord, le nez relevé du bout et très rentré. Sa bouche était grande, son menton petit, ses mains et ses bras étaient rouges, ses pieds larges et forts comme ceux des paysannes. Quoiqu'elle éprouvât l'action du hâle, du soleil et du grand air, son teint était pâle, comme l'est une herbe flétrie. Mais cette couleur rendait sa physionomie intéressante dès le premier aspect. Puis elle avait dans ses yeux bleus une expression si douce, dans ses mouvements tant de grâce, dans sa voix tant d'âme, que malgré le désaccord apparent de ses traits avec les qualités que Benassi avait vantées au commandant, celui-ci reconnut la créature capricieuse et maladive, en proie aux souffrances d'une nature contrariée dans ses développements. Après avoir vivement attisé un feu de mottes et de branches sèches, la fosseuse s'assit dans un fauteuil en reprenant une chemise commencée, et resta sous les yeux de l'officier, honteuse à demi, n'osant lever les yeux, calme en apparence, mais les mouvements précipités de son corsage, dont la beauté frappa Genesta, décelaient sa peur. « Eh bien, ma pauvre enfant, êtes-vous bien avancée ?» lui dit Benassi, en maniant les morceaux de toile destinés à faire des chemises. La fosseuse regarda le médecin d'un air timide et suppliant. « Ne me grondez pas, monsieur, répondit-elle. Je n'y ai rien fait aujourd'hui, quoiqu'elle me soit commandée par vous et pour des gens qui en ont grand besoin. Mais le temps a été si beau. Je me suis promenée, je vous ai ramassé des champignons et des truffes blanches que j'ai portées à Jacotte. Elle a été bien contente, car vous avez du monde à dîner. J'ai été tout heureuse d'avoir deviné cela. Quelque chose me disait d'aller en chercher. » Et elle se remit à tirer l'aiguille. « Vous avez là, mademoiselle, une bien jolie maison, » lui dit Genesta. « Elle n'est point à moi, monsieur, » répondit-elle en regardant l'étranger, avec des yeux qui semblaient rougir. « Elle appartient à monsieur Benassi. » Et elle reporta doucement ses regards sur le médecin. « Vous savez bien, mon enfant, » dit-il en lui prenant la main, « qu'on ne vous en chassera jamais. » La fosseuse se leva par un mouvement brusque et sortit. « Eh bien, » dit le médecin à l'officier, « comment la trouvez-vous ? » « Mais, » répondit Genesta, « elle m'a singulièrement ému. » « Ah, vous lui avez bien gentiment arrangé son nid. » Bah, du papier à 15 ou 20 sous, mais bien choisi, voilà tout. Les meubles ne sont pas grand-chose. Ils ont été fabriqués par mon vannier qui a voulu me témoigner sa reconnaissance. La fosseuse a fait elle-même les rideaux avec quelques zones de calicot. Son habitation, son mobilier si simple, vous semble joli parce que vous les trouvez sur le penchant d'une montagne, dans un pays perdu où vous ne vous attendiez pas à rencontrer quelque chose de propre. Mais le secret de cette élégance est dans une sorte d'harmonie entre la maison et la nature qui a réuni là des ruisseaux, quelques arbres bien groupés, et jeté sur cette pelouse ses plus belles herbes, ses fraisiers parfumés, ses jolies violettes. Eh bien, qu'avez-vous? Dit Benassi à la fosseuse qui revenait. Rien, rien, répondit-elle. J'ai cru qu'une de mes poules n'était pas rentrée. Elle mentait. Mais le médecin fut seul à s'en apercevoir, et il lui dit à l'oreille. Vous avez pleuré. Pourquoi me dites-vous de ces choses-là devant quelqu'un? Lui répondit-elle. Mademoiselle, lui dit Genesta, vous avez grand tort de rester ici toute seule. Dans une cage aussi charmante que l'est celle-ci, il vous faudrait un mari. Cela est vrai, dit-elle. Mais que voulez-vous, monsieur? Je suis pauvre et je suis difficile. Je ne me sens pas d'humeur à aller porter la soupe au champ ou à mener une charrette, à sentir la misère de ceux que j'aimerais sans pouvoir la faire cesser, à tenir des enfants sur mes bras toute la journée et à rapetasser les haillons d'un homme. Monsieur le curé me dit que ces pensées sont peu chrétiennes. Je le sais bien, mais qu'y faire? En certains jours, j'aime mieux manger un morceau de pain sec que de m'accommoder quelque chose pour mon dîner. Pourquoi voulez-vous que j'assomme un homme de mes défauts? Il se tuerait peut-être pour satisfaire mes fantaisies, et ce ne serait pas juste. Bah, l'on m'a jeté quelque mauvais sort, et je dois le supporter toute seule. D'ailleurs, elle est née fainéante, ma pauvre fausseuse, dit Benassis. Et il faut la prendre comme elle est. Mais ce qu'elle vous dit là signifie qu'elle n'a encore aimé personne, ajouta-t-il en riant. Puis il se leva et sortit pendant un moment sur la pelouse. Vous devez bien aimer monsieur Benassi? Lui demanda Genesta. Oh oui, monsieur. Et comme moi, bien des gens dans le canton se sentent l'envie de se mettre en pièces pour lui. Mais lui qui guérit les autres, il a quelque chose que rien ne peut guérir. Vous êtes son ami? Vous savez peut-être ce qu'il a? Qui donc a pu faire du chagrin à un homme comme lui, qui est la vraie image du bon Dieu sur terre? J'en connais plusieurs ici qui croient que leur blé pousse mieux quand il a passé le matin le long de leurs champs. Et vous, que croyez-vous? Moi, monsieur, quand je l'ai vu. Elle parut hésiter, puis elle ajouta. Je suis heureuse pour toute la journée. Elle baissa la tête et tira son aiguille avec une prestesse singulière. Eh bien, le capitaine vous a-t-il conté quelque chose sur Napoléon? Dit le médecin en rentrant. Monsieur a vu l'empereur? S'écria la fosseuse en contemplant la figure de l'officier avec une curiosité passionnée. Parbleu, dit Genesta, plus de 1 000 fois! Ah, que je voudrais savoir quelque chose de militaire! Demain, nous viendrons peut-être prendre une tasse de café au lait chez vous. Et l'on te contera quelque chose de militaire, mon enfant, dit Médinci en la prenant par le cou et la baisant au front. C'est ma fille, voyez-vous, ajouta-t-il en se tournant vers le commandant. Lorsque je ne l'ai pas baisée au front, il me manque quelque chose dans la journée. La fosseuse serra la main de Benassi et lui dit à voix basse. Oh, vous êtes bien bon. Ils la quittèrent, mais elle les suivit pour les voir monter à cheval. Quand Genesta fut en selle, qu'est-ce donc que ce monsieur-là? Souffla-t-elle à l'oreille de Benassi. Ah, répondit le médecin en mettant le pied à l'étrier. Peut-être un mari pour toi. Elle resta debout, occupée à les voir descendant la rampe, et lorsqu'ils passèrent au bout du jardin, ils l'aperçurent déjà perchée sur un monceau de pierres, pour les voir encore et leur faire un dernier signe de tête. Monsieur, cette fille a quelque chose d'extraordinaire, dit Genesta au médecin, quand ils furent loin de la maison. N'est-ce pas? répondit-il. Je me suis 20 fois dit qu'elle ferait une charmante femme, mais je ne saurais l'aimer autrement que comme on aime sa sœur ou sa fille. Mon cœur est mort. A-t-elle des parents? Demanda Genesta. Que faisaient son père et sa mère? Oh, c'est toute une histoire, reprit Benassi. Elle n'a plus ni père, ni mère, ni parents. Il n'est pas jusqu'à son nom qui ne m'est intéressé. La fausseuse est née dans le bourg. Son père, journalier de Saint-Laurent-du-Pont, se nommait le Fausseur, abréviation sans doute de Fossoyeur, car depuis un temps immémorial, la charge d'enterrer les morts était restée dans sa famille. Il y a dans ce nom toutes les mélancolies du cimetière. En vertu d'une coutume romaine encore en usage ici, comme dans quelques autres pays de la France, et qui consiste à donner aux femmes le nom de leur mari, en y ajoutant une terminaison féminine, cette fille a été appelée la Fausseuse, du nom de son père. Ce journalier avait épousé par amour la femme de chambre de je ne sais quelle comtesse dont la terre se trouve à quelques lieues du bourg. Ici, comme dans toutes les campagnes, la passion entre pour peu de choses dans les mariages. En général, les paysans veulent une femme pour avoir des enfants, pour avoir une ménagère qui leur fasse de bonnes soupes et leur apporte à manger au champ, qui leur file des chemises et raccommode leurs habits. Depuis longtemps, pareille aventure n'était arrivée dans ce pays, où souvent un jeune homme quitte sa promise pour une jeune fille plus riche qu'elle de 3 ou 4 arpents de terre. Le sort du fausseur et de sa femme n'a pas été assez heureux pour déshabituer nos dauphinois de leurs calculs intéressés. La fausseuse, qui était une belle personne, est morte en accouchant de sa fille. Le mari prit tant de chagrin de cette perte qu'il en est mort dans l'année, ne laissant rien au monde à son enfant qu'une vie chancelante et naturellement fort précaire. La petite fut charitablement recueillie par une voisine qui l'éleva jusqu'à l'âge de 9 ans. La nourriture de la fausseuse devenant une charge trop lourde pour cette bonne femme, elle envoya sa pupille mendier son pain dans la saison où il passe des voyageurs sur les routes. Un jour, l'orpheline, étant allée demander du pain au château de la comtesse, y fut gardée en mémoire de sa mère. Élevée alors pour servir un jour de femme de chambre à la fille de la maison, qui se maria 5 ans après, la pauvre petite a été pendant ce temps la victime de tous les caprices des gens riches, lesquels, pour la plupart, n'ont rien de constant ni de suivi dans leur générosité. Bienfaisant par accès ou par boutade, tantôt protecteur, tantôt ami, tantôt maître, ils faussent encore la situation déjà fausse des enfants malheureux auxquels ils s'intéressent. Et ils en jouent le cœur, la vie ou l'avenir avec insouciance, en les regardant comme peu de choses. La fausseuse devint d'abord presque la compagne de la jeune héritière. On lui apprit alors à lire, à écrire, et sa future maîtresse s'amusa quelquefois à lui donner des leçons de musique. Tour à tour, demoiselle de compagnie et femme de chambre, on fit d'elle un être incomplet. Elle prit là le goût du luxe, de la parure, et contracta des manières en désaccord avec sa situation réelle. Depuis, le malheur a bien rudement réformé son âme, mais il n'a pu en effacer le vague sentiment d'une destinée supérieure. Enfin, un jour, jour bien funeste pour cette pauvre fille, la jeune comtesse, alors mariée, surprit la fausseuse, qui n'était plus que sa femme de chambre, parée d'une de ses robes de bal et dansant devant une glace. L'orpheline, alors âgée de 16 ans, fut renvoyée sans pitié. Son indolence la fit retomber dans la misère, errer sur les routes, mendier, travailler, comme je vous l'ai dit. Souvent, elle pensait à se jeter à l'eau, quelquefois aussi à se donner au premier venu. La plupart du temps, elle se couchait au soleil le long du mur, sombre, pensive, la tête dans l'herbe. Les voyageurs lui jetaient alors quelques sous, précisément parce qu'elle ne leur demandait rien. Elle est restée pendant 1 an à l'hôpital d'Annecy, après une moisson laborieuse, à laquelle elle n'avait travaillé que dans l'espoir de mourir. Il faut lui entendre raconter à elle-même ses sentiments et ses idées durant cette période de sa vie. Elle est souvent bien curieuse dans ses naïves confidences. Enfin, Elle est revenue au bourg vers l'époque où je résolus de m'y fixer. Je voulais connaître le moral de mes administrés. J'étudiai donc son caractère, qui me frappa. Puis, après avoir observé ses imperfections organiques, je résolus de prendre soin d'elle. Peut-être, avec le temps, finira-t-elle par s'accoutumer au travail de la couture, mais en tout cas, j'ai assuré son sort. Elle est bien seule, là, dit Genesta. Non, une de mes bergères vient coucher chez elle, répondit le médecin. Vous n'avez pas aperçu les bâtiments de ma ferme qui sont au-dessus de la maison. Ils sont cachés par les sapins. Oh, elle est en sûreté. D'ailleurs, il n'y a point de mauvais sujet dans notre vallée. Si par hasard ils s'en rencontrent, je les envoie à l'armée, où ils font d'excellents soldats. Pauvre fille, dit Genesta. Ah, les gens du canton ne la plaignent point, reprit Benassi. Ils la trouvent au contraire bien heureuse. Mais il existe cette différence entre elle et les autres femmes, qu'à celle-ci, Dieu a donné la force, à elle, la faiblesse. Et il ne voit pas cela. Au moment où les deux cavaliers débouchèrent sur la route de Grenoble, Benassi, qui prévoyait l'effet de ce nouveau coup d'œil sur Genesta, s'arrêta d'un air satisfait pour jouir de sa surprise. Deux pans de verdure hauts de 60 pieds meublaient, à perte de vue, un large chemin bombé comme une allée de jardin et composaient un monument naturel qu'un homme pouvait s'enorgueillir d'avoir créé. Les arbres, non taillés, formaient tous l'immense palme verte qui rend le peuplier d'Italie un des plus magnifiques végétaux. Un côté du chemin, atteint déjà par l'ombre, représentait une vaste muraille de feuilles noires, tandis que, fortement éclairée par le soleil couchant qui donnait aux jeunes pousses des teintes d'or, l'autre offrait le contraste des jeux et des reflets que produisaient la lumière et la brise sur son mouvant rideau.
« Vous devez être bien heureux ici !» s'écria Genesta. « Tout y est plaisir pour vous !»«
Monsieur, dit le médecin, l'amour pour la nature est le seul qui ne trompe pas les espérances humaines. Ici, point de déception. Voilà des peupliers de 10 ans. En avez-vous jamais vu d'aussi bien venus que les miens ?»«
Dieu est grand !»
dit le militaire en s'arrêtant au milieu de ce chemin, dont il n'apercevait ni la fin ni le commencement.
« Vous me faites du bien !» s'écria Benassi. « J'ai du plaisir à vous entendre répéter ce que je dis souvent au milieu de cette avenue. Il se trouve, certes, ici, quelque chose de religieux. Nous y sommes comme deux points, et le sentiment de notre petitesse nous ramène toujours devant Dieu. »
Ils allèrent alors lentement et en silence, écoutant le pas de leurs chevaux qui résonnait dans cette galerie de verdure, comme s'ils eussent été sous les voûtes d'une cathédrale. Combien d'émotions dont ne se doutent pas les gens de la ville, dit le médecin. Sentez-vous les parfums exhalés par la propolis des peupliers et par les sueurs du mélèze? Quel délice!
Écoutez, s'écria Genesta, arrêtons-nous.
Ils entendirent alors un chant dans le lointain. Est-ce une femme ou un homme? Est-ce un oiseau? Demanda tout bas le commandant. Est-ce la voix de ce grand paysage? Il y a de tout cela, répondit le médecin, en descendant de son cheval et en l'attachant à une branche de peuplier. Puis il fit signe à l'officier de l'imiter et de le suivre. Ils allèrent à pas lents le long d'un sentier bordé de deux haies d'épines blanches, en fleurs, qui répandaient de pénétrantes odeurs dans l'humide atmosphère du soir. Les rayons du soleil entraient dans le sentier avec une sorte d'impétuosité que l'ombre projetée par le long rideau de peupliers rendait encore plus sensible, et ces vigoureux jets de lumière enveloppaient de leur teinte rouge une chaumière située au bout de ce chemin sablonneux. Une poussière d'or semblait être jetée sur son toit de chaume, ordinairement brun comme la coque d'une châtaigne, et dont les crêtes délabrées étaient verdies par des joubardes et de la mousse. La chaumière se voyait à peine dans ce brouillard de lumière.
Mais les vieux murs, la porte, tout y avait un éclat fugitif, tout en était fortuitement beau, comme l'est par moments une figure humaine, sous l'empire de quelque passion qui l'échauffe et la colore. Il se rencontre dans la vie en plein air de ces suavités champêtres et passagères qui nous arrachent le souhait de l'apôtre disant à Jésus-Christ sur la montagne « Dressons une tente et restons ici ». Ce paysage semblait avoir en ce moment une voix pure et douce autant qu'il était pur et doux, mais une voix triste comme la lueur près de finir à l'Occident. Vague image de la mort, avertissement divinement donné dans le ciel par le soleil, comme le donnent sur la terre les fleurs et les jolis insectes éphémères. À cette heure, les tons du soleil sont empreints de mélancolie, et ce chant était mélancolique, chant populaire d'ailleurs, chant d'amour et de regret, qui jadis a servi la haine nationale de la France contre l'Angleterre, mais auquel Beaumarchais a rendu sa vraie poésie, en le traduisant sur la scène française et le mettant dans la bouche d'un page qui ouvre son cœur à sa marraine. Cet air était modulé sans parole sur un ton plaintif par une voix qui vibrait dans l'âme et l'attendrissait. « C'est le chant du cygne, » dit Benassi. Dans l'espace d'un siècle, cette voix ne retentit pas deux fois aux oreilles des hommes. Hâtons-nous, il faut l'empêcher de chanter. Cet enfant se tue. Il y aurait de la cruauté à l'écouter encore. Tais-toi donc, Jacques! Allons, tais-toi! Cria le médecin. La musique cessa. Genesta demeura debout, immobile et stupéfait. Un nuage couvrait le soleil. Le paysage et la voix s'étaient tus ensemble. L'ombre, le froid, le silence remplaçaient les douces splendeurs de la lumière, les chaudes émanations de l'atmosphère et les chants de l'enfant. « Pourquoi, disait Benassi, me désobéis-tu? Je ne te donnerai plus ni gâteau de riz, ni bouillon d'escargot, ni dattes fraîches, ni pain blanc. Tu veux donc mourir et désoler ta pauvre mère ?» Genesta s'avança dans une petite cour assez proprement tenue et vit un garçon de 15 ans, faible comme une femme, blond, mais ayant peu de cheveux, et coloré comme s'il eût mis du rouge. Il se leva lentement du banc où il était assis, sous un gros jasmin, sous des lilas en fleurs qui poussaient à l'aventure et l'enveloppaient de leur feuillage. « Tu sais bien, dit le médecin, que je t'ai dit de te coucher avec le soleil, de ne pas t'exposer au froid du soir et de ne pas parler. Comment t'avises-tu de chanter ?»« Dame, monsieur Benassi, il faisait bien chaud là, et c'est si bon d'avoir chaud. J'ai toujours froid. En me sentant bien, sans y penser, je me suis mis à dire pour m'amuser « Malbrou s'en va en guerre », et je me suis écouté moi-même, parce que ma voix ressemblait presque à celle du flûtio de votre berger. « Allons, mon pauvre Jacques, que cela ne t'arrive plus, entends-tu? Donne-moi la main. » Le médecin lui tâta le pouls. L'enfant avait des yeux bleus habituellement empreints de douceur, mais qu'une expression fiévreuse rendait alors brillant. « Eh bien, j'en étais sûr, tu es en sueur, » dit Benassi. « Ta mère n'est donc pas là ?»« Non, monsieur. Allons, rentre et couche-toi. » Le jeune malade, suivi de Benassi et de l'officier, rentra dans la chaumière. « Allumez donc une chandelle, capitaine Bluteau, » dit le médecin qui aidait Jacques à ôter ses grossiers haillons. Quand Genesta eut éclairé la chaumière, il fut frappé de l'extrême maigreur de cet enfant qui n'avait plus que la peau et les os. Lorsque le petit paysan fut couché, Benassi lui frappa sur la poitrine en écoutant le bruit qui produisait ses doigts. Puis, après avoir étudié des sons de sinistres présages, il ramena la couverture sur Jacques, se mit à 4 pas, se croisa les bras et l'examina. « Comment te trouves-tu, mon petit homme ?»«
Bien, monsieur. »
Benassi approcha du lit une table à 4 pieds tournée, chercha un verre et une fiole sur le manteau de la cheminée et composa une boisson
en mêlant à de l'eau pure quelques gouttes d'une liqueur brune contenue dans la fiole et soigneusement mesurée à la lueur de la chandelle que lui tenait Genesta. « Ta mère est bien longtemps à revenir. »«
Monsieur, elle vient, » dit l'enfant. « Je l'entends dans le sentier. »
Le médecin et l'officier attendirent en regardant autour d'eux. Au pied du lit était un matelas de mousse, sans drap ni couverture, sur lequel la mère couchait tout habillée sans doute. Genesta montra du doigt ce lit à Benassi, qui inclina doucement la tête comme pour exprimer que lui aussi avait admiré déjà ce dévouement maternel. Un bruit de sabots ayant retenti dans la cour, le médecin sortit. « Il faudra veiller Jacques pendant cette nuit, mère Colas. S'il vous disait qu'il étouffe, vous lui feriez boire de ce que j'ai mis dans un verre sur la table. Ayez soin de ne lui en laisser prendre chaque fois que deux ou trois gorgées. Le verre doit vous suffire pour toute la nuit. Surtout, ne touchez pas à la fiole, et commencez par changer votre enfant. Il est en sueur. Je n'ai pu laver ses chemises aujourd'hui, mon cher monsieur. Il m'a fallu porter mon chanvre à Grenoble pour avoir de l'argent. Eh bien, je vous enverrai des chemises. Il est donc plus mal, mon pauvre gars ? Dit la femme.
Il ne faut rien attendre de bon, mère Colas. Il a fait l'imprudence de chanter. Mais ne le grondez pas, ne le rudoyez point. Ayez du courage. Si Jacques se plaignait trop, envoyez-moi chercher par une voisine. Adieu.
Le médecin appela son compagnon et revint vers le sentier.
« Ce petit paysan est poitrinaire ?» lui dit Genesta.
« Mon Dieu, oui, » répondit Benassi. « À moins d'un miracle dans la nature, la science ne peut le sauver. Nos professeurs à l'école de médecine de Paris nous ont parlé du phénomène dont vous venez d'être témoin. Certaines maladies de ce genre produisent, dans les organes de la voix, des changements qui donnent momentanément aux malades la faculté d'émettre des chants dont la perfection ne peut être égalée par aucun virtuose.
« Je vous ai fait passer une triste journée, monsieur, » dit le médecin, quand il fut à cheval.
« Partout la souffrance et partout la mort, mais aussi partout la résignation. Les gens de la campagne meurent tous philosophiquement. Ils souffrent, se taisent et se couchent à la manière des animaux. Mais ne parlons plus de mort, et pressons le pas de nos chevaux. Il faut arriver avant la nuit dans le bourg, pour que vous puissiez en voir le nouveau quartier.
Hé ! Voilà le feu quelque part, dit Genesta en montrant un endroit de la montagne d'où s'élevait une gerbe de flammes.
Ce feu n'est pas dangereux. Notre chaufournier fait sans doute une fournée de chaux. Cette industrie, nouvellement venue, utilise nos bruyères.
Un coup de fusil partit soudain. Benassi laissa échapper une exclamation involontaire, et dit avec un mouvement d'impatience.
« Si c'est butifère, nous verrons un peu qui de nous deux sera le plus fort. »«
On a tiré là !» dit Genesta en désignant un bois de hêtre situé au-dessus d'eux dans la montagne.
« Oui, là-haut ! Croyez-en l'oreille d'un vieux soldat !»«
Allons-y promptement !» cria Benassi, qui, se dirigeant en ligne droite sur le petit bois, fit voler son cheval à travers les fossés et les champs, comme s'il s'agissait d'une course au clocher, tant il désirait surprendre le tireur en flagrant délit.
« L'homme que vous cherchez se sauve !» lui cria Genesta, qui le suivait à peine.
Benassi fit retourner vivement son cheval, revint sur ses pas, et l'homme qu'il cherchait se montra bientôt sur une roche escarpée, à 100 pieds au-dessus des deux cavaliers.
« Butifère !» cria Benassi en lui voyant un long fusil. « Descends !»
Butifère reconnut le médecin et répondit par un signe respectueusement amical qui annonçait une parfaite obéissance.
« Je conçois, dit Genesta, qu'un homme poussé par la peur ou par quelques sentiments violents ait pu monter sur cette pointe de roc. Mais comment va-t-il faire pour en descendre ?»«
Je ne suis pas inquiet, » répondit Benassi. « Les chèvres doivent être jalouses de ce gaillard-là. Vous allez voir. »
Habitué par les événements de la guerre à juger de la valeur intrinsèque des hommes, le commandant admira la singulière prestesse, l'élégante sécurité des mouvements de Butifère pendant qu'il descendait le long des aspérités de la roche
au sommet de laquelle il était audacieusement parvenu. Le corps svelte et vigoureux du chasseur s'équilibrait avec grâce dans toutes les positions que l'escarpement du chemin l'obligeait à prendre. Il mettait le pied sur une pointe de roc plus tranquillement que s'il l'eût posé sur un parquet, tant il semblait sûr de pouvoir s'y tenir au besoin. Il maniait son long fusil comme s'il n'avait eu qu'une canne à la main. Butifère était un homme jeune, de taille moyenne, mais sec, maigre et nerveux, de qui la beauté virile frappa Genesta quand il le vit près de lui. Il appartenait visiblement à la classe des contrebandiers qui font leur métier sans violence et n'emploient que la ruse et la patience pour frauder le fisc. Il avait une mâle figure, brûlée par le soleil. Ses yeux, d'un jaune clair, étincelaient comme ceux d'un aigle, avec le bec duquel son nez mince, légèrement courbé par le bout, avait beaucoup de ressemblance. Les pommettes de ses joues étaient couvertes de duvet. Sa bouche rouge, entr'ouverte à demi, laissait apercevoir des dents d'une étincelante blancheur. Sa barbe, ses moustaches, ses favoris roux, qu'il laissait pousser et qui frisaient naturellement, rehaussaient encore la mâle et terrible expression de sa figure. En lui, tout était force. Les muscles de ses mains, continuellement exercés, avaient une consistance, une grosseur curieuse. Sa poitrine était large, et sur son front respirait une sauvage intelligence. Il avait l'air intrépide et résolu, mais calme, d'un homme habitué à risquer sa vie, et qui a si souvent éprouvé sa puissance corporelle ou intellectuelle en des périls de tout genre, qu'il ne doute plus de lui-même. Vêtu d'une blouse déchirée par les épines, il portait à ses pieds des semelles de cuir attachées par des peaux d'anguille. Un pantalon de toile bleue rapiécée, déchiqueté, laissait apercevoir ses jambes rouges, fines, sèches et nerveuses, comme celles d'un cerf.
Vous voyez l'homme qui m'a jadis tiré un coup de fusil, dit à voix basse Benassi au commandant. Si maintenant je témoignais le désir d'être délivré de quelqu'un, il le tuerait sans hésiter.
Butifère, reprit-il en s'adressant au braconnier, je t'ai cru vraiment homme d'honneur, et j'ai engagé ma parole parce que j'avais la tienne. Ma promesse au procureur du roi de Grenoble était fondée sur ton serment de ne plus chasser, de devenir un homme rangé, soigneux, travailleur. C'est toi qui viens de tirer ce coup de fusil, et tu te trouves sur les terres du comte de Labranchoire. Hein? Si son garde t'avait entendu, malheureux! Heureusement pour toi, je ne dresserai pas de procès verbal. Tu serais en récidive, et tu n'as pas de port d'armes. Je t'ai laissé ton fusil par condescendance pour ton attachement à cette arme-là.
Elle est belle, dit le commandant en reconnaissant une canardière de Saint-Étienne.
Le contrebandier leva la tête vers Genesta comme pour le remercier de cette approbation.